Chapitre 6 Croix et misère. Il est bien vrai que Sage Boutrou s'allait marier dans peu avec la fille du drapier Chaussier. C'était un garçon sage, bien entendu dans le commerce, et qui n'employait point ses loisirs à jouer à la boule ou à la paume, comme bien d'autres, mais à faire des comptes, à lire le bocage des 6 corporations, et à apprendre un peu d'espagnol, qu'il était bon qu'un marchand sût parler, comme aujourd'hui l'anglais, à cause de la quantité de personnes de cette nation qui habitaient dans Paris. Maître Goubard s'étant donc, en 6 années, convaincu de la parfaite honnêteté et du caractère excellent de son commis, ayant de plus surpris entre sa fille et lui quelques penchants bien vertueux et bien sévèrement comprimés des deux parts, avait résolu de les unir à la Saint-Jean d'été et de se retirer ensuite à Laon, en Picardie, où il avait du bien de famille. Eustache ne possédait cependant aucune fortune, mais l'usage n'était point alors général de marier un sac d'écus avec un sac d'écus. Les parents consultaient quelquefois le goût et la sympathie des futurs époux et se donnaient la peine d'étudier longtemps le caractère, la conduite et la capacité des personnes qu'ils destinaient à leur alliance. Bien différent des pères de famille d'aujourd'hui, qui exigent plus de garantie morale d'un domestique qu'ils prennent que d'un gendre futur. Or, la prédiction du jongleur avait tellement condensé les idées assez peu fluides de l'apprenti drapier qu'il était demeuré tout étourdi au centre de la demi-lune et n'entendait point les voix argentines qui babillaient dans les campaniles de la Samaritaine et répétaient « Midi, midi ». Mais à Paris, midi sonne pendant une heure et l'horloge du Louvre prit bientôt la parole avec plus de solennité, puis celle des grands Augustins, puis celle du Châtelet, si bien qu'Eustache, effrayé de se voir si fort en retard, se prit à courir de toutes ses forces et en quelques minutes eut mis derrière lui les rues de la Monnaie, du Borel et Tirechappe. Alors, il ralentit son pas. Et quand il eut tourné la rue de la boucherie de Beauvais, son front s'éclaircit en découvrant les parapluies rouges du carreau des Halles, les tréteaux des enfants sans souci, l'échelle et la croix, et la jolie lanterne du pilori coiffée de son toit en plomb. C'était sur cette place, sous un de ces parapluies, que sa future Javotte Goubard attendait son retour. La plupart des marchands aux piliers avaient ainsi un étalage sur le carreau des Halles, gardé par une personne de leur maison et servant de succursale à leur boutique obscure. Javotte prenait place tous les matins à celui de son père et, tantôt assise au milieu des marchandises, elle travaillait à des nœuds d'aiguillettes, tantôt elle se levait pour appeler les passants, les saisissait étroitement par le bras et ne les lâchait guère qu'ils n'eussent fait quelque achat, ce qui ne l'empêchait pas d'être, au demeurant, la plus timide jeune fille qui jamais eût atteint l'âge d'un vieux bœuf sans être encore mariée. Toute pleine de grâce, mignonne, blonde, grande et légèrement ployée en avant, comme la plupart des filles du commerce dont la taille était lancée et frêle, enfin, rougissant comme une fraise aux moindres paroles qu'elle disait hors du service de l'étalage, tandis que sur ce point elle ne le cédait à aucune marchande du carreau pour le bagout et la platine. Style commercial d'alors. À midi, Eustache venait d'ordinaire la remplacer sous le parapluie rouge, pendant qu'elle allait dîner à la boutique avec son père. C'était à ce devoir qu'il se rendait en ce moment. Craignant fort que son retour n'eût impatienté Javotte. Mais, d'aussi loin qu'il l'aperçut, elle lui parut très calme, le coude appuyé sur un rouleau de marchandises, et fort attentive à la conversation animée et bruyante d'un beau militaire, penché sur le même rouleau, et qui n'avait pas plus l'air d'un chaland que de toute chose que l'on pût s'imaginer. « C'est mon futur, dit Javotte en souriant à l'inconnu, qui fit un léger mouvement de tête sans changer de situation. Seulement, il toisait le commis de bas en haut, avec ce dédain que les militaires témoignent pour les personnes de l'État bourgeois dont l'extérieur est peu imposant. « Il a un faux air d'un trompette de chez nous, » observa-t-il gravement. « Seulement, l'autre a plus de corporance dans les jambes. Mais tu sais, Javotte, le trompette, dans un escadron, c'est un peu moins qu'un cheval et un peu plus qu'un chien. » « Voici mon neveu, » dit Javotte à Eustache, en ouvrant sur lui ses grands yeux bleus avec un sourire de parfaite satisfaction. « Il a obtenu un congé pour venir à notre noce. Comme cela se trouve bien, n'est-ce pas? Il est arquebusier à cheval. Oh, le beau corps! Si vous étiez vêtu comme cela, Eustache! Mais vous n'êtes pas assez grand, vous, ni assez fort. Et combien de temps, dit timidement le jeune homme, monsieur nous fera-t-il cet avantage de demeurer à Paris? « Cela dépend, » dit le militaire en se redressant, après avoir fait attendre un peu sa réponse. On nous a envoyés dans le Berry pour exterminer les croquants. Et, s'ils veulent rester tranquilles quelque temps encore, je vous donnerai un bon mois. Mais, de toute façon, à la Saint-Martin, nous viendrons à Paris remplacer le régiment de Monsieur Dumière. Et alors je pourrai vous voir tous les jours et indéfiniment. » Eustache examinait l'arquebusier à cheval tant qu'il pouvait le faire sans rencontrer ses regards et, décidément, il le trouvait hors de toutes les proportions physiques qui conviennent à un neveu. « Quand je dis tous les jours, » reprit ce dernier, « je me trompe, car il y a le jeudi, la grande parade. Mais nous avons la soirée et, de fait, « je pourrai toujours souper avec vous ces jours-là. »« Est-ce qu'il compte y dîner les autres ?» pensa Eustache. « Mais vous ne m'aviez point dit, demoiselle Goubard, que monsieur votre neveu était si, si bel homme ? Oh oui, comme il a renforcé ! Dame, c'est que voilà 7 ans que nous ne l'avions vu, ce pauvre Joseph. Et depuis ce temps-là, il a passé bien de l'eau sous les ponts. Et lui, bien du vin sous le nez, pensa le commis, ébloui de la face resplendissante de son neveu futur. On ne se met pas la figure en couleur avec de l'eau rougie. Et les bouteilles de maître Goubard vont danser la branle des morts avant la noce, et peut-être après. « Allons dîner, papa doit s'impatienter, » dit Javotte en sortant de sa place. « Ah, je vais donc te donner le bras, Joseph. Dire qu'autrefois j'étais la plus grande, quand j'avais 12 ans et toi 10, on m'appelait la maman. Mais comme je vais être fière au bras d'un arquebusier, tu me conduiras promener, n'est-ce pas? Je sors si peu. Je ne puis pas y aller seule. Et le dimanche soir, il faut que j'assiste au salut, parce que je suis de la confrérie de la Vierge aux Saints Innocents. Je tiens un ruban du guidon. » Ce caquetage de jeune fille, coupé à temps égaux par le pas sonnant du cavalier, cette forme gracieuse et légère qui sautillait enlacée à cette autre massive et roide, se perdirent bientôt dans l'ombre sourde des piliers qui bordent la rue de la Tonnellerie et ne laissèrent aux yeux d'Eustache qu'un brouillard et à ses oreilles qu'un bourdonnement.